confiance, foi. Crois en moi, fais-moi confiance et tu ne le regretteras pas. Moi, c'est, j'ai mis ma confiance en Dieu et je ne l'ai jamais regretté. Pour nous aider à franchir le pas de la confiance, Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, dont la mission principale a été de nous sauver de notre nature charnelle pécheresse et nous réconcilier avec Dieu en mourant sur la croix. Ça, c'est la première raison principale que Dieu a fait pour nous, c'est d'envoyer Jésus-Christ. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Est-ce que vous avez la vie éternelle? Mais l'autre grande mission de Jésus, qui est moins connue, en venant en tant qu'homme, a été de nous faire voir le Père à travers lui. Alors, on retrouve ça dans un épisode de l'Épître de Jean, Jean 14, versets 8 à 10. Philippe, qui était un de ses apôtres, l'un des 12 apôtres, intervint et lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffira. » Et quoi, lui répondit Jésus, « Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Vous voyez, frères et sœurs, en Jésus-Christ, le dilemme est levé. Jésus s'est présenté lui-même comme l'image visible et palpable du Dieu invisible. Il nous a révélé complètement la personne du Père. Le connaître, Jésus, revient à connaître le Père. Il est le chemin qui mène à Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Je vous propose maintenant, pour celles et ceux qui ont encore un doute sur l'existence de Dieu, qui n'arrivent pas à visualiser Dieu, mais qui croient que Jésus est venu sur terre d'une manière visible, de fermer les yeux et d'écouter ce que dit maintenant l'apôtre Jean. 1 Jean 1. Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Celui qui est la vie s'est manifesté. Nous l'avons vu, nous en parlons en témoin et nous vous annonçons la vie éternelle qui est auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Amen. Voyez le puissant témoignage de ceux qui ont vécu plusieurs années, nuit et jour avec Jésus, nous aide à croire et à mettre notre confiance en Dieu et en ses promesses. La foi, c'est donc la faculté de croire que Dieu existe sans l'avoir jamais vu. La foi, c'est faire confiance à Jésus-Christ, qui est l'image visible du Dieu invisible. La foi, c'est croire que la Bible est la seule parole inspirée de Dieu, il n'y en a pas d'autre. La foi, c'est croire et s'approprier toutes les promesses de Dieu. Et il y en a dans la Bible. On a le choix. Je vous propose ce matin de prendre l'exemple de la foi qui sauve, mais qu'on peut aussi transposer à toutes les autres formes de foi. Par exemple, la foi qui guérit, la foi qui déplace les montagnes, etc. Alors, la foi qui sauve, je vous ai fait un schéma, d'ailleurs vous devez l'avoir avec vous, mais je vais le mettre là aussi. J'ai fait un schéma que je vais expliquer ce matin et que j'ai appelé les 3 A, pour que vous le reteniez mieux. Hein, c'est un moyen mémotechnique. Alors, nous avons vu que Jésus était mort sur la croix pour nous, et pour nous libérer du péché et nous réconcilier avec Dieu. La promesse que fait Dieu dans la Bible est la suivante. C'est une promesse qui est pour tout le monde. Jean 3, 36. Qui place sa confiance dans le Christ, le Fils de Dieu, possède la vie éternelle. Ça, c'est la promesse de Dieu. Cette promesse s'adresse à chacun et chacune de nous. Nous pouvons l'accepter ou la refuser. On a le droit, hein ? On est libre. Alors, on va prendre le cas où on l'accepte. Acceptation. Ça, c'est le premier A. Comment pouvons-nous entrer dans cette promesse ? Eh bien, la Bible nous dit que c'est par la foi. Très souvent, la foi commence par l'acceptation intellectuelle, avec notre cerveau, hein, de la promesse divine. Moi, je la comprends, mais elle ne m'engage pas. Hein, je comprends ce qu'elle veut dire, mais personnellement, ça ne m'engage pas. Par exemple, si je vous dis il y a des Chinois en Chine, ça, ben, on ne va pas dire non. Mais par contre, ça ne m'engage pas. Qu'ils soient en Chine ou qu'ils ne soient pas en Chine, ça me dérange pas. J'y crois, mais d'une manière intellectuelle. Spirituellement, je trouve ça juste et je l'accepte. Mes frères et sœurs, cette foi ne me sauve pas. Elle ne me sauve pas. Pourquoi ? Eh bien, Jacques, dans son épître, nous l'explique. Jacques 2, 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu le crois. Tu l'acceptes. C'est bien, mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Parce que ça ne les concerne pas. Voilà. Ils ont compris intellectuellement qu'on peut être sauvé par Jésus-Christ, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais ça ne les concerne pas. Les démons qui sont déjà condamnés et ne peuvent donc hériter de la vie éternelle sont capables de croire, ils croient en Dieu le Père, en Dieu le Fils, au salut, mais cela les fait trembler de frayeur. Si nous nous arrêtons à cette foi intellectuelle, notre foi, elle est vaine. Il faut aller plus loin. Le deuxième A, c'est adhésion et appropriation. Adhérer et s'approprier. La vraie foi, celle qui sauve, c'est l'adhésion, qui vient du cœur, qui est le centre de nos décisions. C'est le cœur qui décide. On adhère, mais bien plus, on s'approprie la promesse du salut. Elle est pour moi, j'entre dans cette promesse, j'ouvre mon cœur à Jésus. C'est une image, hein. Je décide de lui offrir ma vie. C'est la foi effective, celle qui sauve. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, le confirme. Il dit, Romains 10, 10, « Celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. » Frères et sœurs, vous le savez, nous sommes déclarés justes lorsque nous sommes passés par un acte d'acquittement spirituel. Jésus nous a graciés car il a pris nos péchés sur lui. Paul poursuit, « Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. » Voilà, ça c'est la foi qui sauve. Il faut qu'elle vienne du cœur, non pas de l'intellect. C'est par le témoignage puissant qui vient du cœur et qui sort de notre bouche par le Saint-Esprit que nous pouvons affirmer « Oui, je suis sauvé ». Voilà, là, on dit « Je suis sauvé ». Le troisième A, attente teintée d'espérance. Vous savez, moi je compare toujours ça au mariage. Par exemple, je demande la main de Wardia. Je lui ai demandé, ça fait longtemps, je lui ai demandé la main de Wardia, elle m'a dit oui, donc pour moi c'est acquis. D'accord ? Mais ça sera effectif quand on sera marié. Là, c'est pareil. Alors oui, à présent, par le moyen de la foi, nous sommes sauvés de l'enfer, de la mort éternelle, en croyant de tout notre cœur que Christ est mort pour nous sur la croix. L'apôtre Jean écrit, 1 Jean 5, versets 14 et 15, « Voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, hein, j'insiste bien là-dessus, qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes
nous est acquis. Voilà. C'est l'exemple que j'ai donné avec Wardia.
Si nous faisons confiance à Dieu et à sa parole, l'objet de notre demande est acquis. Nous sommes sauvés. Nous possédons la vie éternelle. Frères, sœurs, par le moyen de la foi, nous tous et tous qui croyons, nous sommes entrés dans la vie éternelle. Vous êtes d'accord avec ça? Mais nous y entrerons de plein pied au jour du Seigneur. 2 Pierre 3,13, nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Frères, sœurs, si nous avons aujourd'hui la vie éternelle, nous la possédons en espérance, dans l'attente du jour du Seigneur, qui est le jour du jugement. Mais ça, la période d'attente, c'est toujours une période difficile, parce que c'est là que notre foi est attaquée. Alors maintenant, je l'espère, nous avons compris que nous, chrétiens, nous vivons par la foi. Habacuc 2,4, le juste vivra grâce à sa foi. Voilà. Donc tous ceux qui sont chrétiens justifiés, qui sont chrétiens en Christ, vivent par la foi. Mais l'apôtre Paul, dans ses lettres à Timothée, vous savez, c'est un jeune collaborateur de Paul, que Paul aimait bien, hein, qu'il a instruit dans la foi. Alors Paul fait entrer deux éléments nouveaux et importants, et je vous demande de bien y réfléchir. Il dit, 1 Timothée 6,12, « Combat le bon combat de la foi ». Alors ces deux éléments sont quoi? Vivre dans et par la foi, c'est un combat. C'est un combat. Donc nous vivons dans un combat permanent. Mais si la foi est un bon combat, et si Paul prend le soin de dire « je combats le bon combat », ben, c'est qu'il existe un mauvais combat. Sinon, il dirait ben, « j'ai combattu le combat ben, » ou « j'ai combattu ». Alors, la notion de combat. Frères et sœurs, la vie humaine est un combat permanent. Il suffit de regarder notre actualité. Vous savez, les forts combattent et écrasent les faibles combattent pour leur survie, le féminisme combat le machisme, et nos partis politiques montrent parfois de bien tristes combats. Lorsque Paul parle du bon combat de la foi, il parle du combat permanent que chaque chrétienne, chaque chrétien doit engager pour conserver la foi dans tous les actes de sa vie. Alors ce matin, j'ai marqué deux courts témoignages, mais j'en ferai qu'un. L'autre, je le ferai plus tard, dans un autre culte. Deux courts témoignages personnels. J'aimerais vous présenter le bon combat de la foi contre nous-mêmes. Parce que notre premier ennemi, c'est qui? C'est nous. Parce que nous, on a des peurs, des angoisses, des sentiments, des émotions, et puis qui nous font des fois perdre la foi. Et contre le monde spirituel invisible qui cherche à nous faire perdre le combat de la foi. Hein, ce sont les deux ennemis. Alors, je vais vous donner mon premier témoignage, qui sera le seul ce matin, personnel. Après notre mariage, je parle souvent de mariage avec Wardia, mais après notre mariage avec Wardia, et avant que Wardia, mon épouse, soit enceinte, nous avons pris ensemble la décision de prier pour nos futurs enfants, afin qu'ils appartiennent à Dieu, mais aussi pour leur futur conjoint, pour qu'ils soient des chrétiens engagés. C'était une conviction qui nous venait de Dieu, même si cela paraissait fou aux yeux de beaucoup. Hein, il y a des gens qui disaient, mais ça n'aura pas de prier déjà, vous n'êtes même pas sûr d'avoir des enfants, pourquoi vous priez pour eux? Alors nous étions convaincus que c'était important. Après tout, c'est vrai, on priait bien pour des personnes qui étaient autour de nous, des personnes de l'Église. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas prié pour le salut de nos futurs enfants? D'ailleurs, c'est une exhortation biblique. 1 Timothée 5,8 dit « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. » Donc ça correspondait bien à quelque chose que Dieu nous demandait. C'est donc individuellement, mais aussi ensemble, que nous nous sommes engagés avec Wardia dans le combat d'une prière régulière. À la naissance de nos filles, nous avons persévéré.
On voyait des jeunes de l'Église qui quittaient la foi et on nous disait, et c'est vrai, hein, en fin de compte, c'est eux qui choisissent. Alors ils disaient, oui, mais si on prie et puis que c'est eux qui choisissent, ça nous perturbait. Pour nous aider et nous soutenir dans ce bon combat de la foi et de la persévérance, nous avons reçu le soutien, et ça c'est important, de deux couples de l'Église. Deux couples chrétiens et amis avec lesquels nous avons prié, partagé chaque mois pour la conversion de nos enfants et leurs conjoints. Il s'agit de Edith et Dominique, à qui je rends hommage ce matin. Merci parce qu'ils nous ont aidés dans ce combat. Et puis plus tard aussi Brigitte et Dominique, qui sont venus nous rejoindre aussi. Et nous avons prié chaque mois pour, sauf peut-être les vacances, pour nos enfants et pour leur conversion. Colossiens 4:2, maintenez avec persévérance l'habitude de la prière, soyez alerte et reconnaissant en priant afin d'être gardés vigilants. Pendant toute l'enfance de nos filles, nous avons combattu, persévéré dans la prière, nous les avons amenées à l'église, et elles ont fait toutes les écoles du dimanche, elles sont passées par les eaux du baptême. Tout cela a été une grâce et des graines plantées dans leur cœur. Puis un jour, à l'adolescence, elles n'ont plus souhaité venir à l'église. Et ça a été pour nous dur à accepter. Mais nous avons continué à prier pour elles. Notre combat était à présent de lutter contre la pensée de dire bah, « Dieu n'a pas entendu nos demandes, nos prières faites avec un cœur sincère n'ont servi à rien. » À quoi ça servait puisqu'elles ne voulaient plus venir, ça ne les intéressait plus. Romains 12:12, que votre joie découle de votre espérance. Si l'épreuve survient, portez avec patience les fardeaux qui vous sont imposés. Exercez-vous à maintenir votre esprit dans une attitude de prière constante. Priez avec régularité et persévérance. Et c'est ce que nous avons fait. Alicia, notre première fille, sortait beaucoup.
Je me rappelle, où Ardia disait, c'est pas, si tu veux épouser un mari chrétien, c'est pas en allant dans les boîtes de nuit que tu te rencontres rien.
Elle fréquentait des amis du monde. Un jour, elle est venue pour nous dire « Papa, maman, je connais un jeune homme, mais je vous préviens, il n'est pas chrétien. » Franchement, frères et sœurs, pour nous, c'était un échec. C'était un échec dans notre éducation chrétienne, mais aussi un échec dans nos prières. Nous étions, Wardia et moi, abattus, mais pas coulés. Et ça, c'est important. J'écoute, moi, des fois, la chanson de Vianney. Je ne sais pas si vous écoutez « Alléluia ». Hein, Vianney, il dit quand on vit par l'espérance, on vit encore. Mais si on renonce, on entre dans la mort. Renoncer, c'est abandonner. Donc, abattu, mais pas coulé. Frères, sœurs, nous avons remis la situation entre les mains de Dieu, en lui demandant qu'il prenne les choses en main, qu'il gère l'avenir et dirige, et nous utilise pour sa gloire. Et le Dieu en qui nous avions jusqu'ici placé toute notre confiance ne nous a pas déçus. Psaume 37:5, c'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir. Aie confiance en lui et il agira. Alors nous avons accueilli Kevin, ce jeune homme qui n'était pas chrétien, et nous l'avons accueilli de tout notre cœur. Comme un fils, nous lui avons dit, nous sommes chrétiens. Il a dit, oui, je sais, a répondu Kevin. Pouvons-nous prier pour toi? Bon, il a dit, moi ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Bon, nous avons prié, et nos prières l'ont fait rire. Ça fait bizarre. Mais jamais il n'avait entendu de telles prières. Hein, il avait peut-être des fois entendu un autre père, « Je vous salue Marie », mais il n'avait jamais entendu, compris comme ça. Il venait tous les soirs après son travail pour voir Alicia et repartait vers 23 heures. Alors nous avons eu peur, Wardia et moi, qu'il soit victime d'un accident. Nous avons prié et nous l'avons invité à dormir à la maison. Hein ? puis il habitait loin, il habitait à Metz, à Méville, à Thionville, ouais. Quelque
temps plus tard, alors que nous ne nous y attendions pas, Kevin et Alicia, excusez-moi, ont ouvert et offert leur cœur à Jésus. Ils ont donné leur cœur à Jésus, vous rendez compte? Aujourd'hui, ils sont très engagés dans l'église de Boispy et animent chez eux une étude biblique. Ce bon combat de la foi a eu une fin heureuse. Parfois, cela se passe autrement. Mais l'action de Dieu a été permanente. Et tout ce qu'on ne savait pas, ben Kevin nous l'a dit après. Kevin, qui est un très beau garçon, mais issu d'une famille dysfonctionnelle, ne voulait absolument pas se marier. Il était contre le mariage. Un soir, il a clairement entendu dans son cœur, alors qu'il voyait passer Alicia devant lui, « C'est elle qui deviendra ta femme. » Si Dieu n'agit pas. Quand on prie, Dieu, il agit. La seconde chose, il nous a dit, c'est votre accueil qui a touché mon cœur. Ceci est un encouragement pour chacun de nous. Notre deuxième fille, Julia, a dernièrement épousé un chrétien, engagé, Jason. Notre troisième fille, Solène, est en devenir et nous prions pour elle. Et il y a aussi des belles choses avec Mélanie, avec Thomas, et on espère maintenant avec David, avec Aurélie. Voilà, on peut prier aussi pour Solène, qui est notre troisième fille et qui n'a encore pas donné son cœur à Jésus. Voilà, faute de temps, je remets mon second témoignage à un culte ultérieur. Car je souhaiterais maintenant vous parler du mauvais combat de la foi. C'est un combat dans lequel Satan a voulu faire, par exemple, entrer Jésus, mais sans succès. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, versets 5 à 7, « Comme l'Esprit Saint avait conduit Jésus dans le désert, il fut tenté par Satan. Le diable tenta Jésus pour la seconde fois. Il transporta Jésus dans la cité sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. » Et là, il cite le psaume 91, versets 11 et 12. Mais Satan le cite partiellement, c'est-à-dire en partie, et surtout le sort de son contexte, et fausse totalement l'esprit de ce psaume. L'esprit du psaume, c'est « Si tu te confies en l'Éternel de tout ton cœur, alors l'Éternel prendra soin de toi et te protégera. » Satan, dans son esprit déréglé et provocateur, dit à Jésus « Si tu es le Fils de Dieu, tu n'as rien à craindre, même si tu te jettes volontairement, c'est-à-dire si tu te suicides, eh bien Dieu viendra à ton secours. » Jésus, qui n'a pas à lui prouver qu'il est le Fils de Dieu, car Satan le sait, il lui répond calmement « Il est écrit, il est écrit. » Il cite l'Écriture, le livre du Deutéronome 6, 16. « Tu ne forceras pas la main du Seigneur ton Dieu. Tu ne l'éprouveras pas, tu ne le tenteras pas. » C'est-à-dire, tu n'obligeras pas Dieu à agir contre sa volonté. Dieu n'est pas engagé par une promesse qui ne lui appartient pas. Cet exemple biblique nous montre comment chacun de nous peut s'engager dans un mauvais combat de la foi. Le mauvais combat de la foi va particulièrement concerner trois catégories de personnes, je pense. Premièrement, celles et ceux qui lisent la Bible d'une manière intellectuelle. Bon, ils ne lisent pas avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit, donc ils peuvent mal l'interpréter. Celles et ceux qui utilisent la Bible pour obtenir des avantages personnels, notamment, vous savez, les prédicateurs qui vous invitent à exercer votre foi en déposant votre argent à leurs pieds. Ça existe encore maintenant. Et troisièmement, celles et ceux qui lisent rarement la Bible et la connaissent peu. Je rappelle ce que dit la Bible sur ce qui nourrit notre foi. Romains 10, 17,
Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ça qui nourrit notre foi, c'est la lecture de la parole. Vous savez, je me souviens, j'ai cité à Wardia, je disais à Flavigny, à quelqu'un, dans la Bible, il est marqué ça. Il dit, mais je la connais la Bible, je la connais. Je peux te citer quelques versets. Alors, c'était « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Et l'autre, c'est « Tous les chemins mènent à Rome ». Tu vois que je la connais, la Bible. Je veux dire, vous voyez, comment on peut aussi mal la connaître et croire qu'on la connaît, mais Satan peut facilement nous perturber dans notre foi quand on la connaît pas. Pour que vous compreniez bien le mauvais combat de la foi, je vais l'illustrer par un exemple de chrétien qui, voulant montrer la profondeur de sa foi, s'engage sur la glace d'un lac gelé, vous avez l'image derrière vous, avec cette promesse de Jésus, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il marche par la foi, rien ne peut lui arriver. Il tient la Bible dans sa main droite et la promesse de Jésus dans la main gauche. Là, c'est un chrétien qui risque de se noyer. Ce chrétien combat le mauvais combat de la foi. Il s'engage sur un lac interdit, il ne respecte pas l'autorité, il n'écoute pas les conseils et il s'appuie sur une promesse qui ne l'invite pas à faire ce qu'il fait. En réalité, il essaye de forcer la main de Dieu. Des fois, nous essayons de forcer la main de Dieu. Frères et sœurs, avant de jeter vos lunettes et vos médicaments, vérifiez bien que vous êtes dans la volonté de Dieu. Avant de proclamer que vous avez la certitude que Dieu va guérir quelqu'un, consultez l'Éternel pour savoir si c'est dans son plan. Je rappelle cette histoire qu'a déjà racontée Jean-Pierre ici même. Un violent orage provoqua une grosse inondation. Les eaux entouraient la maison d'un chrétien et passa une barque de pompiers. L'homme ne voulut pas monter. Car dit-il, mais Dieu interviendra. Les eaux continuant à monter, il se rendit sur le toit de la maison. Un hélicoptère lui envoya un filin, mais l'homme continua à proclamer, mais Dieu me sauvera. Hélas, il se noya. Au ciel, il demanda à Dieu, mais pourquoi n'es-tu pas intervenu? J'ai placé toute ma foi en toi. Et Dieu lui dit, mais bien sûr que je suis intervenu. Je t'ai envoyé une barque et un hélicoptère. Ça ne te suffit pas? Mais des fois, Dieu nous envoie des médecins. Il nous envoie des dentistes. Hein? Pourquoi est-ce que nous, on dit, oh là là, on ne passe pas par ces gens-là parce qu'on veut simplement attendre l'intervention de Dieu? Frères et sœurs, nous sommes responsables de la confiance que nous plaçons en Dieu, mais Dieu, lui, est libre, maître de ses réponses. Et j'aimerais à présent, et pour conclure, vous laisser ce bel exemple de la foi que j'ai lu il y a 2 semaines dans mon culte personnel. C'est le roi Asa, le roi de Juda. Et voilà ce qui est arrivé au roi de Juda. Asa disposait d'une armée composée de 300 000 hommes de Juda, capables de manier le bouclier et la lance, et de 280 000 hommes de Benjamin, capables de manier le bouclier et de tirer à l'arc. C'étaient tous de vaillants guerriers. Ça faisait une belle armée. Mais Zérak, l'Éthiopien, se mit en campagne pour les attaquer avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Et il atteignit Maresha. Asa marcha à sa rencontre et ils se rangèrent en ordre de bataille dans la vallée de Tsefata, près de Maresha. Asa fit appel à l'Éternel, son Dieu, et dit « Éternel, toi seul peux secourir celui qui a beaucoup de force comme celui qui n'en a pas. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et c'est en ton nom que nous sommes venus contre cette foule. » Éternel, tu es notre Dieu, ne laisse pas un homme l'emporter sur toi. L'Éternel frappa les Éthiopiens sous les yeux d'Asa et de Juda. Et les Éthiopiens prirent la fuite. Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar, et les Éthiopiens tombèrent sans aucun moyen de sauver leur vie, car ils furent détruits par l'Éternel et par son armée. Asa et son peuple firent un très grand butin. Ils conquirent toutes les villes des environs de Guérar, car la terreur de l'Éternel s'était emparée d'elles. Et ils les pillèrent toutes, car elles contenaient un butin considérable. Ils frappèrent aussi les campements destinés aux troupeaux, et ils emmenèrent une très grande quantité de brebis et de chameaux. Puis ils retournèrent à Jérusalem. Frères, sœurs, mais même quand on est faible, quand on se confie à l'Éternel, quand on met sa confiance en lui par la foi, et on peut faire des grandes choses. On peut déplacer les montagnes. Voilà, je voulais ce matin vous laisser ça. Combattez le bon combat, mais pas seul. Combattez le bon combat de la foi avec Dieu. Voilà, maintenant, si vous voulez, je vais prier pour vous et pour moi, pour que nous soyons dans le bon combat. Seigneur, merci pour ta parole, parce que ta parole, elle nous nourrit, elle nous enseigne. Et si Paul dit qu'il a combattu le bon combat de la foi, nous devons combattre aussi le bon combat de la foi. Aide-nous, Seigneur, à placer notre confiance en toi, en sachant que c'est toi qui agis, et que si nous sommes conformes à ta parole et conformes à tes promesses, eh bien, Seigneur, tu répondras et tu nous donneras vraiment le meilleur pour nous. Gloire te soit rendue, Seigneur. Amen.